j'ai coutume de dire que mon stylo, c'est mon logiciel de post-traitement à moi.
Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. C'est le deuxième épisode de la 12e saison et cette nouvelle saison démarre sur les chapeaux de roue avec des invités tous plus inspirants et passionnants les uns que les autres. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous lire un message que j'ai reçu sur mon compte Insta, un message de Mégane. Alors Mégane est photographe et elle aimerait se lancer plus sérieusement, peut-être même plus professionnellement dans la photo. Voici le message. Bonjour, un petit message pour vous dire merci pour votre podcast. Passionnée mais peureuse de me lancer, j'ai cherché longtemps des témoignages, des avis de photographes qui ont su se lancer. Alors voilà, quand j'ai créé la série Libre et Photographe, je l'ai fait exactement pour ça, pour inspirer toutes celles et ceux qui veulent faire de la photo un moyen d'en faire une source sérieuse de revenus. J'espère que ça vous aide, vous, autant que ça peut aider Mégane. Pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, et qui écouteraient pour la première fois mon émission, je suis Régis Moscardini et une fois tous les 15 jours, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, alors que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour dans un premier temps se payer son matos ou arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Je reçois aujourd'hui le photographe Bastien Masson. Sous son pseudo, photovolcanique, Bastien s'est spécialisé dans la photographie animalière. Ses images de renards, de cerfs et globalement de toute la faune sauvage de nos campagnes et forêts sont magnifiques. Puis c'est pas pour rien, je trouve que son pseudo soit photovolcanique, car de ses photos, de ses images, ressortent vraiment beaucoup de puissance brute. Mais si je l'ai invité à répondre à mes questions, c'est aussi pour son talent de rédacteur. Car il suffit de lire les légendes de ses posts Insta pour vite comprendre que Bastien possède ce qu'on appelle une belle plume. Alors vous apprendrez, grâce à lui, que non, vos photographies, aussi belles soient-elles, ne se suffisent pas à elles-mêmes et que des bons mots qui l'accompagnent peuvent autant la magnifier qu'un bon post-traitement. Comme d'habitude, ce serait génial si vous laissiez un commentaire sympa et une bonne note sur Apple Podcast, évidemment, si vous utilisez cette plateforme. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente écoute. Bonjour Bastien.
Et salut Régis.
Eh bien écoute, je suis très heureux de t'avoir comme invité pour mon podcast. Ça fait longtemps que j'y pense et c'est enfin là. Comment tu vas Bastien ?
Eh bien écoute, ça va. Je suis bien content aussi de pouvoir me prêter à ce petit exercice. Ça me fait bien plaisir et puis... on va aborder des sujets passionnants, entre passionnés, donc plaisir partagé.
Bah c'est cool. Alors exercice oui non, hein, à la fin c'est pas noté, machin, enfin on est...
tu vois, ah bon
on
est, ouais.
Bah non, je te... ou alors sur 20, je peux noter sur 20 si tu veux. Comme à l'école, où tu sais les petits bonhommes qui rigolent, qui fait la tête et qui...
Ouais, je me suis dit qu'à peut-être avec ton passé d'enseignant, j'allais devoir rendre une copie ou quelque chose comme ça, mais d'accord.
C'est vieux tout ça, c'est vieux. Et même quand j'étais enseignant d'ailleurs, je notais, j'essayais de pas noter, en tout cas de le faire le moins possible.
Ah bien.
Donc tu vois, hein, non, mais à l'époque je faisais ça bien, hein, bien sûr. Hein. Alors voilà, on s'est rencontrés sur Instagram, on a beaucoup échangé sur Insta. Ouais. Et puis en fait, en préparant l'interview, je me suis rendu compte que la plupart des photographes que j'interview, eh bien, ont été rencontrés sur Instagram. Alors même s'il y a des aspects négatifs, on les connaît sur les réseaux, mm-hmm. ça permet quand même de belles rencontres, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce ouais. que toi aussi sur Insta, est-ce que c'est un endroit qui t'a permis de découvrir puis d'échanger avec des nouveaux photographes que tu n'aurais pas pu rencontrer autrement ou ailleurs ?
Alors ouais, moi clairement, ouais. Ça a été un outil assez précieux et motivant, surtout dans mes débuts de photographe, parce que c'était un moyen simple et rapide d'avoir des contacts et de pouvoir échanger avec des gens plus expérimentés qui étaient pas avares de conseils. Et donc ça, c'est pour la partie technique, ça m'a pas mal aidé dans ma progression de la photo. Après, on voit circuler aussi beaucoup d'images qui peuvent être des sources d'inspiration. On va aller simplement chercher à comprendre comment est-ce qu'il a fait et comment est construite cette image, quelle est la technique qui l'a amené à pouvoir réaliser cette image. Et après, l'aspect le plus intéressant pour moi de ce réseau social, c'est que ça m'a effectivement permis de rencontrer des gens pour de vrai, entre guillemets, quoi. De rencontrer des vrais gens, de connaître des personnes, des photographes qui étaient sur mon département à quelques kilomètres. Et que j'aurais probablement jamais connu si j'avais pas été sur ce réseau. Et ça m'a permis des rencontres dans la vraie vie, avec des vrais échanges, avec des vrais dialogues, des amitiés qui se sont créées aussi, et des affûts, des sorties sur le terrain concrètes. Et ça, c'est globalement pour moi l'aspect vraiment le plus intéressant d'Instagram.
Bah, finalement, Instagram, et puis aussi, je pense qu'on peut parler de Facebook peut-être, j'y suis beaucoup moins, je ne suis même pas du tout sur TikTok ou les autres comme Snapchat, mais clairement, on pourrait presque dire qu'un réseau social, ça pourrait servir qu'à ça, faire se rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu mettre en relation sans ça, mais une fois que la relation est faite, et ben on peut aller beaucoup plus loin, ou pas. On peut aussi nouer des amitiés, moi c'est le cas avec d'autres photographes, sur Insta, on ne s'est jamais rencontrés, mais on sent que si on pouvait se voir, ce serait, tu vois, le courant passe. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou, c'est que finalement, on reste dans du virtuel, que dans l'échange écrit, pourquoi pas aussi audio parfois, mais le courant arrive à passer quand même malgré le fait que ce soit que des 1 et des 0 qui s'échangent. Et finalement, il y a un aspect un peu magique derrière ça. Alors, première question très basique, très simple pour apprendre à mieux te connaître, Bastien. Comment toi, tu as découvert la photographie? Il y a combien de temps? Et comment est-ce que c'est comme Obélix? T'es tombé dedans petit ou c'est venu plus tard? Comment ça s'est passé pour toi, cette rencontre avec cet art photographique?
C'est un petit peu un mélange des deux, sachant que moi, j'ai grandi en pleine nature, dans le parc du Mercantour, avec des parents bergers. Donc, j'ai vraiment baigné dans les grands espaces, la faune sauvage et des milieux ultra préservés. Donc, on parle d'un parc national, donc avec des animaux de partout, avec la possibilité de les voir, de les entendre, de les approcher. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit, un peu de pistage aussi, et de l'observation en règle générale, c'est quelque chose que je fais vraiment depuis que j'ai calculé ça, depuis que j'ai 7 ans, à peu près. Et la photographie m'a toujours un petit peu titillé, mais j'ai été beaucoup réfréné par l'aspect technique, même par l'aspect geek que ça pouvait avoir, sachant que on est face à des données techniques qui, avec énormément de chiffres, beaucoup de données un petit peu compliquées et tout. Moi, je suis tout sauf un matheux. Les chiffres me font peur, vraiment, viscéralement. Et donc, du coup, quand on a commencé à me parler de monter en ISO, de
triangle d'exposition
comme ça. Pour moi, c'était vraiment assez effrayant. Et à côté de ça, il y avait cette envie que j'ai toujours eue de témoigner de mes rencontres et de pouvoir en ramener un souvenir. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter du matériel de bonne qualité, semi-professionnel, dédié à la photographie animalière. Et une fois que j'avais investi cette petite somme dans ce matériel et que je l'avais là devant moi, j'avais pas d'autre solution soit que de m'y mettre ou alors de remettre le matériel en vente sur le bon coin, quoi. Donc je m'y suis mis il y a 3 ans.
Ok, c'est plutôt récent finalement. Hein.
C'est tout récent, ouais.
Quand on voit tes photographies, pardon, je te coupe un peu, Bastien, mais quand on voit tes photographies, je te dis pas ça parce que tu es en face de moi et qu'on se voit et que voilà, mais juste pour te faire plaisir gratuitement, il y a une vraie maturité, je trouve, dans tes photos. J'aurais plutôt eu tendance à penser que ça faisait, plus de 3 ans, tout simplement.
D'accord. Ouais, déjà le fait d'avoir été dans l'observation depuis toujours, ça permet quand même de décrypter pas mal de choses sur terrain, de connaître les meilleurs emplacements, de savoir où se positionner par rapport à la lumière, de savoir quelles sont les saisons qui offrent les meilleures lumières, les heures de la journée. Enfin, on dégrossit pas mal en faisant de l'observation et en faisant du terrain avant la photo. On a déjà quand même une lecture du terrain qui est différente et qui est assez éclairée. Et la photo est venue après et naturellement, j'ai appliqué ce que j'appliquais au terrain et à l'observation, je l'ai appliqué à la photo. Mais après, cette progression plus rapide, je pense que pour revenir sur ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, je la dois aussi à Instagram parce que je me suis rendu compte en débutant, comme tous les débutants, que 8 fois sur 10, les prises de vue que je faisais ne correspondaient pas à ce que moi j'en attendais esthétiquement. Et donc du coup, là, je suis allé chercher chez d'autres photographes qui avaient, par exemple, sorti une image avec l'ambiance ou avec la lumière ou avec les effets qui me manquaient. Je suis allé demander des conseils à droite à gauche. Et ça, c'est les petits conseils techniques que des photographes d'Instagram m'ont apporté. Mais merci pour le compliment sur les images.
Ah non, mais c'est très sincère. Et là, tu viens de dire un truc absolument essentiel, c'est que finalement, la photographie, la technique photo, ça prend assez rapidement. Moi, j'ai plutôt coutume de dire qu'on peut l'apprendre en une demi-journée. Ouais. Je veux dire, les bases, évidemment. Après, on peut toujours, et c'est plutôt conseillé, de toujours chercher à se former, à progresser, à pratiquer, à expérimenter, évidemment, dans la technique photo. Mais je veux dire, les bases, elles s'apprennent très rapidement. En revanche, ce que tu viens d'évoquer, c'est... l'expérience du terrain, la connaissance du sujet, et ça, peu importe que tu photographies, toi, les animaux, moi également, mais je veux dire qu'on peut aussi très bien photographier, pourquoi pas, de l'humain, des mariages, de l'astro, ce qu'on veut, des bâtiments, la connaissance du sujet, elle est essentielle, et je me souviens toujours de ce qu'avait dit Vincent, le fameux Vincent Munier, dans un reportage, je ne sais plus lequel, quand il arrive sur un spot photo, sur un lieu, bon lui, il ne va pas pour une demi-journée, hein, mais quand il arrive sur un spot photo, et quand il y est pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les 3-4 premiers jours, il laisse son appareil photo dans le sac et il se promène. Et c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que toi, ce n'était pas 3 jours, c'était des années d'expérience terrain, mais une fois que tu sors l'appareil, tu t'es imprégné de l'atmosphère, de l'ambiance, tu sais à peu près où tu vas. Et finalement, l'appareil photo, la technique photo n'est qu'un outil pour servir tout ce que tu as pu vivre, expérimenter avant. Donc ça, c'est hyper important et je suis content que tu l'aies dit. Alors moi, j'aime bien les pseudos Insta, en fait, Bastien, parce que je pense qu'on pourrait dire, tu vois, dis-moi ton pseudo et je te dirai qui tu es. Ouais. Et on peut peut-être faire l'exercice avec le tien. Ouais. Donc toi, ton pseudo Insta, c'est photovolcanique, tout attaché, c'est... Très simple, voilà. Ouais. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur lui, sur ce pseudo. Il se cache quoi derrière ?
Alors, c'est sympa que tu poses la question parce qu'on va en rediscuter après, mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'écrit, soit, mais au premier écrit auquel les gens vont être confrontés quand ils vont ouvrir un mail, regarder un profil Insta, peu importe. Et là, photovolcanique, bah, pour moi, c'était un petit peu une évidence. Je suis photographe dans le Cantal, donc il y a une région volcanique, et je fais mes photographies pour l'essentiel dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Donc, il y avait cet aspect, il y avait le petit jeu de mots avec photovoltaïque et photovolcanique. Quand on en parle entre nous avec ma compagne aujourd'hui et qu'on a besoin de sortir dans une phrase le terme photovoltaïque, c'est photovolcanique qui sort en premier. Donc, pour moi, déjà, ça veut dire que ça fonctionne parce que on a squeezé complètement le photovoltaïque pour le photovolcanique. Mmh. Donc, c'est pour l'aspect géographique du lieu dans lequel je fais mes photos. Il y a aussi le fait que sans trop m'en rendre compte, mais je pense que j'ai un attachement aux terres volcaniques parce que les quelques voyages que j'ai fait depuis ces quelques années, c'était toujours involontaire, mais je me suis retrouvé en Islande au milieu des volcans, dans les îles éoliennes pour aller voir les éruptions du Stromboli, et je fais jamais vraiment gaffe, mais en fait je pense qu'il y a quelque chose qui me suit un petit peu comme ça, il y a une histoire un petit peu avec les volcans, parce que je suis pas originaire du Cantal non plus, j'y suis venu par pur hasard un petit peu, et c'est aussi une terre de volcans. Et le second aspect que j'aime bien, qui m'a poussé à prendre ce pseudo, c'est que le volcanisme, comme tu disais, il y a quelque chose qui est assez percutant, qui est assez tempétueux et ténébreux, et ça fait un petit peu partie de mes traits de caractère et de la façon dont j'aime le restituer en photo et par mes récits, par mes écrits. C'est le caractère volcanique, voilà, les éruptions, la lave, quelque chose. Il faut savoir qu'avant que je me mette à la photo et avant que je découvre l'affût, j'étais quelqu'un d'extrêmement, on peut le dire, colérique, tempétueux, énervé, à fleur de peau. C'est la photo qui a permis que je me contienne un petit peu. Mais voilà, je voulais que dans mon pseudo, ça ressorte un petit peu. Et comme tu l'as dit, ça évoque quelque chose quand on dit photovolcanique. Il y a tout de suite une image de lave, d'explosion, d'un truc un petit peu péchu, on va dire.
Écoute, c'est très intéressant tout ça. Évidemment, il y a le côté, il y a le sens propre, il y a le sens figuré, et tout ça se rejoint. Ça fait beaucoup de liens. C'est génial. Et c'est vrai qu'il y a, ça me fait penser en fait à une personne que je coach et qui a beaucoup de mal à trouver son nom. Quelque part un peu son nom de scène, alors on voit pas, je fais des guillemets avec mes doigts, mais son nom de scène, et finalement il y a un petit peu de ça aussi. Alors après, le nom de scène, ça peut être comme moi, hein, nom, prénom, et c'est ok.
Oui, bien sûr.
Mais on peut aussi chercher quelque chose qui soit inventé pour nous définir plus. Et c'est vrai que quand ça, on le sent tout de suite quand c'est ça. Voilà, je pense que toi, ce photovoltaïque là, il est installé, il est ancré et il est très très fluide finalement quand tu le dis. On va aller un peu sur ta pratique photo, Bastien.
Ouais.
Donc photographie animalière, de nature.
Ouais.
Tu ressens quoi quand tu es au cœur de l'action? Tu as parlé d'affût. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas exactement ce que c'est que l'affût en photographie animalière, on va dire qu'il y a deux façons de photographier les animaux sauvages. C'est soit tu vas à leur rencontre en mode un peu, alors ce qu'on appelle la bibaude, voilà, c'est un mot un peu ancien. En gros, c'est un peu le mode Sioux, mode indien où tu vas à la rencontre, tu vois, tu te déplaces, hein, voilà, en faisant un peu le guerrier, quoi, voilà. Ou alors tu as la solution presque inverse, qui est celle d'attendre, de te cacher et tu te mets dans un affût, ce qui est une petite cache, une cachette qui peut être à demeure ou éphémère. Toi, quand tu es plutôt à l'affût, tu ressens quoi quand tu es au cœur de l'action, c'est-à-dire que quand tu es dans ton affût?
Alors déjà, moi, l'idée de partir à l'affût, c'est quelque chose que je prépare. Par exemple, si je sais que ce soir je vais aller en affût, c'est quelque chose que je vais préparer. Mon subconscient va préparer toute la journée. Je vais me mettre en situation et je vais me dire que voilà, à la fin de la journée, il va falloir que que je sois entièrement disponible pour aller me mettre à l'affût. Il s'agit pas juste de s'asseoir et de s'attendre et d'attendre. Je pense que c'est important aussi d'avoir bien préparé dans sa tête, d'être calme, d'être dégagé de toute responsabilité ou de tout événement parasite pour pouvoir vraiment se concentrer dessus. Moi, ce que je ressens et ce que je recherche en allant en affût, je cherche à m'annuler.
Ah, c'est intéressant comme expression, ça. J'avais jamais entendu.
Tu verras, il y a plusieurs expressions que j'ai développées autour de l'affût. Moi, je cherche à annuler plus que ma présence, à m'annuler moi. Je ne veux plus exister pendant les 4 heures où je vais attendre qu'une bête passe. Alors après, la bête, elle passe.
Tu peux exister par rapport à la nature. En gros, tu veux vraiment être celui qui n'est pas là pour que les animaux puissent faire ce qu'ils ont à faire sans que toi, tu interviennes, tu interfères dans leur comportement. Ou tu veux t'annuler toi dans le sens où, une espèce un peu côté méditatif où tu ne veux plus rien penser du tout, tu vois, et tu es dans l'instant présent.
Il y a ces deux aspects là moi j'ai, en ce moment on parle beaucoup de méditation, de pleine conscience et tout, donc moi c'est une pratique vers laquelle je me suis jamais tourné, mais en me renseignant un petit peu sur ce que c'était, je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je fais en affût, en fait,
sans le savoir.
C'est déjà une pratique que je mets en œuvre parce que l'affût, ça nécessite tellement de concentration et en même temps tellement de contemplation que il y a besoin de rien et il ne faut rien, en fait. Il faut pas de téléphone, il faut pas penser à la journée de demain, il faut pas penser à la journée qui vient de se passer. Il faut juste être là et c'est vraiment un exercice. Quand je te disais que moi j'étais quelqu'un de plutôt très énergique, voire un peu hyperactif et un peu tempétueux, quand j'ai découvert l'affût, mon tempérament s'est adouci du jour au lendemain quasiment, quoi. Ça m'a un peu changé, sachant qu'au début je pouvais pas faire de l'affût, quoi. J'étais beaucoup trop speed pour ça ne convenait pas. Il y a deux ou trois rencontres et deux ou trois affûts qui m'ont fait prendre conscience de tout ce que ça pouvait apporter. Et donc du coup voilà, moi ce que je recherche vraiment c'est ça, c'est m'annuler totalement, en fait, qui est plus rien d'autre que même l'objectif, l'appareil photo, bon, il est là, et s'il y a quelque chose qui se passe, je vais prendre la photo. Mais pour moi, c'est vraiment faire partie de ce que j'appelle le grand rien, quoi. Faire partie de tout ce qui m'entoure.
C'est génial, et c'est vrai que du coup, ça me fait penser peut-être à deux grands aspects, deux grandes façons de photographier qui ne sont pas du tout, comment dire, opposées dans le sens où il n'y en a pas une qui est meilleure ou moins bien que l'autre. Voilà, c'est là, toi, tu parles de l'animal et de la nature, et effectivement, c'est se mettre complètement en retrait pour que tu n'interfères pas du tout sur la vie animale, la vie sauvage qui est autour de toi. Mais on peut parfaitement penser également à quelqu'un qui ferait la photographie de rue et qui voudrait aussi avoir cette recherche-là de s'annuler. Aussi dans un état d'esprit un peu contemplatif et méditatif, pourquoi pas, ça peut être tout à fait possible, je pense, mais aussi pour ne pas interférer sur la vie sociale des gens qui sont autour de lui et photographier la vraie vie telle qu'elle se passe. Après, il y a l'autre façon de photographier, c'est d'avoir de maîtriser les éléments. Et tu vois, je pense particulièrement aux photographes de studio, mais pourquoi pas aux photographes aussi, peut-être de rue, mais qui va aller chercher quelqu'un, un inconnu, et puis discuter avec lui et lui demander de prendre telle ou telle pose. C'est vraiment un autre aspect de la photographie. Mais c'est vrai que dans la photographie nature, il y a quelque chose qui... je vois pas comment, tu vois, on pourrait intervenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être en macrophotographie. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que toi, tu peux aussi des fois avoir cette envie de maîtriser plus ton élément?
Moi, c'est un aspect que j'ai un petit peu développé parce que je fais pas que de la photo animalière. Je fais de la photographie de fleurs aussi, pas mal, et un petit peu d'insectes. Donc, ce qu'on appelle de la proxy photographie, parce que c'est pas de la macro, c'est vraiment de la proxy photographie. Et, au début, j'étais vraiment fan d'animaux et je suis tombé sur quelques fleurs magnifiques qui m'ont fait aimer la proxy photographie. Et je me suis rendu compte que justement, en termes de maîtrise des éléments, comme tu disais, on a un petit peu plus de liberté quand il s'agit d'une fleur ou d'un insecte. On peut tourner autour pendant des heures, aller chercher l'élément du fond pour faire son bokeh qui est plus dans un angle que dans l'autre. Mais ce sera toujours en conditions naturelles. Et je sais qu'il y a des photographes, de très bons photographes qui le font en macro, qui vont monter carrément un studio en extérieur pour avoir clairement des effets et tout. Moi, j'admire le travail, j'admire le résultat, mais c'est pas quelque chose qui m'attire parce que c'est pas tant que ça l'impression de tricher, mais c'est l'impression de pas avoir joué avec les règles de la nature, en fait. C'est d'avoir amené des éléments extérieurs, et ça va me chiffonner un petit peu parce que quand on arrive à faire la photo qu'on veut, qu'on a en tête, dans des conditions de lumière naturelle et avec des éléments naturels en arrière-plan et en avant-plan, c'est gage d'une satisfaction de folie, en fait. Parce qu'on n'a pas triché, entre guillemets, on n'a rien apporté en plus, tout était là. Il a juste fallu, se donner la peine d'aller chercher l'image qu'on avait en tête, quoi.
Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire, et moi je le pensais aussi au départ, hein, très franchement, puis après quand tu réfléchis, quand tu discutes beaucoup avec des photographes, grâce aux interviews que je peux faire notamment, voilà, au début, moi je me disais, c'est plus dur la photographie animalière parce que justement tu ne maîtrises pas ton sujet et la difficulté elle est là, c'est-à-dire qu'en gros tu fais ce que tu as, et par opposition justement photographe de studio qui lui va déplacer ses lumières, donc je me disais, naïvement, bah, c'est plus simple pour lui. En gros, il veut avoir tel effet, il déplace la lumière, tant de puissance, tant de machin. Mais en fait, pour avoir testé également la photographie de studio et celle au flash, la photographie sociale comme ça, et ben, je me rends compte que le fait d'avoir l'entière latitude pour faire ce que tu veux, eh bien, c'est pas un gage de simplicité. Au contraire, comme tu peux faire ce que tu veux, ça apporte pas mal de difficultés, pas mal tu te dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu vois, c'est à toi de créer la photographie. Et le fait d'avoir à créer la photographie peut aussi apporter des difficultés supplémentaires. Donc, en gros, rien n'est simple. Et je pense qu'il n'y a pas un type de photographie qui est plus facile ou plus difficile qu'une autre. Alors, mon précédent invité, Bastien, c'était Ken. Alors, le pseudo, pareil, on pourrait aussi en parler avec lui. J'aurais pu en parler sur son pseudo Instagram. C'est Ken Giscan, et lui sur son compte Insta, il propose plein de photographies différentes. Voilà, de la moto, du drone, du paysage, de l'animalier, des bâtiments, du portrait, bref, plein de choses différentes. Il touche à tout et je trouve ça très bien. Toi, c'est pile l'inverse que de la nature.
Ouais.
Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est juste ce que tu affiches toi sur Insta, mais tu photographies plein d'autres choses sauf que tu le montres pas, ou réellement tu es vraiment un photographe nature et tu ne fais que ça?
Ouais, non, moi je suis vraiment axé essentiellement photographie nature, faune et flore sauvage. C'est ce que je fais, c'est ce que je sais faire, c'est ce qui m'éclate. Et dès qu'il faut que je sorte de ce domaine, je sors de ma zone de confort, en fait, qui pourrait être une zone d'inconfort pour d'autres photographes, hein. Mais par exemple, je suis jeune papa, j'ai deux enfants, on me demande régulièrement de faire des photos de mes enfants. Je suis pas capable de prendre le temps et de soigner mes prises de vue parce que ça ne me parle pas, quoi. Ça ne me parle pas. Ou même pour de la photo de paysage, un petit peu de photo d'ambiance de temps en temps quand ça s'y prête. Mais pour moi, quand je vais prendre une photo, s'il n'y a pas un élément naturel sauvage dessus, il manque quelque chose, quoi.
Les enfants peuvent être très sauvages parfois, hein, quand même.
Alors moi d'autant plus, j'ai des enfants sauvages, donc je suis bien placé pour en parler. Mais ça reste des individus humains, et de ce fait, je il y a quelque chose qui me manque, quoi. Moi, il faut que j'ai l'impression d'avoir en face de moi un animal ou une fleur ou un insecte dont je sais que elle n'est pas là grâce à moi ou à cause de moi. C'est moi qui suis venu à sa rencontre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Et c'est aussi ce que je recherche, quoi. C'est le côté insolite de l'observation et qui est beaucoup moins frappant quand tu photographies, à mon sens, quand tu photographies des humains, du sport ou tout autre.
Ouais, mais bon, de toute façon, c'est qu'une question de... comment dire, c'est pas le mot, c'est pas intérêt, c'est une question de sensibilité. Voilà, ouais, en gros, tu le sens, tu le sens pas, et c'est comme plein de choses dans la vie, hein. Voilà, c'est tout, c'est l'intuition en fait, et
oui,
ça te fait vibrer, tu rentres un peu en connexion avec ça, et c'est très personnel évidemment. Donc je comprends parfaitement ce que tu dis pour être moi aussi quelqu'un qui aime beaucoup la photographie animalière. Je voudrais bien qu'on parle un petit peu du renard, si tu es OK là-dessus. Ouais. Parce que moi, déjà, c'est un animal que j'aime beaucoup, qui est un peu volcanique, dans le sens où il va déclencher chez les gens... il n'est pas neutre comme animal, clairement. En gros, c'est binaire. Je trouve la relation qu'a l'homme avec l'animal, avec l'animal peut-être, mais avec en particulier le renard, c'est binaire. C'est je t'aime à fond ou je te déteste et je te tue, quoi. Tu vois. Si je t'aime, je te protège, ou je te déteste, je te tue. Alors, on s'éloigne vraiment de la photographie, tout ça, mais comment, toi, tu pourrais expliquer cette relation, finalement, très paradoxale que l'homme a avec le renard, qui, finalement, est le résumé parfait, je trouve, de la relation de l'homme à la nature, quoi. Toi, ouais. comment tu pourrais expliquer ça?
Moi, la première chose qui me vient à l'idée quand on parle du renard et de la relation avec l'humain et de ce que ça peut engendrer comme sensation, comme sentiment, c'est que le renard, en fait, c'est un animal, c'est connu depuis tout temps, qui est extrêmement rusé et intelligent. Et déjà, quand on dit à un humain qu'un animal est extrêmement rusé et intelligent, déjà, on met les deux pieds dans un plat qui dérange, parce que par rapport à notre société actuelle, hein, par rapport à notre société aujourd'hui, de quel droit un animal se revendique plus intelligent qu'un être humain? Et déjà, ça chiffonne. Donc, soit ça passionne, pour des gens comme toi et moi qui sommes photographes animaliers, de voir toute la roublardise d'un goupil, de voir sa démarche, vraiment, c'est... Il le porte sur lui, quoi, cette malice. Mais d'un autre côté, quand tu prends un exemple très courant d'une pauvre dame qui s'est fait, ou d'un pauvre monsieur, pardon, qui s'est fait manger ses poules, et qui va dire si je le chope, tu vas voir et tout. Mais la finalité, ce qui dérange le plus, c'est pas qu'il ait chopé les poules, en fait, c'est qu'il ait trouvé le moyen pour aller choper les poules, malgré les chiens, malgré les protections, malgré les grillages. Et je pense que c'est ça, en fait. En grande partie, ça va se retrouver sur des prédateurs comme le loup, en fait, hein, qui provoquent des débats ultra clivants et passionnés. Mais je pense que la base de tout ça, c'est de se rendre compte que nous, humains, eh ben, il y a des êtres, il y a des animaux, ou il y a des situations qui nous échappent totalement, qui sont hors de notre contrôle et qui ne sont pas de notre fait, en fait. Et rien que ça, ça peut perturber, quoi. Je pense que ça peut perturber. Après, il y a l'aspect esthétique du renard qui fascine, parce que on voit juste une flamme rousse passer comme ça dans un champ, et puis il y a cette malice, il y a le masque sur le visage, il y a ses oreilles toujours relevées. Enfin voilà, il y a le fait de voir un animal qui semble porter sur lui le fait d'être tout le temps dans la préparation d'un sale coup, quoi. C'est le côté espiègle de l'animal qui peut déclencher ce genre de réaction.
C'est vrai que de tout ce que tu as dit, s'il y a un mot qui peut venir à l'esprit, c'est la concurrence finalement qu'opère le renard avec l'homme.
Ouais.
Et certains vont s'en accommoder, voilà, et d'autres ne vont pas le supporter. Donc voilà, bon, ce sera un autre débat, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce que, pourquoi je t'en parle? Parce que tu as des photographies de renards qui sont magnifiques sur ton compte, d'autres aussi, mais celles du renard sont, ont toujours ce truc en plus que moi je trouve, mais parce que c'est lié au renard particulièrement, et comme tu l'as dit, ce regard, ce sourire toujours en permanent là, il est vraiment fascinant comme animal. Un petit point sur le matériel, et puis après on va aborder la deuxième partie de l'interview. Ouais. Parce que bon, on est entre photographes et que le matériel, ça compte aussi. Mm-hmm. Tu photographies avec avec quoi ? C'est quoi ton boîtier, puisque tu as comme type d'objectif ?
Ok. Alors moi, je suis passé sur un boîtier plein format il y a un an. Donc là, j'ai un 5D Mark III de chez Canon, qui est un boîtier plein format qui est pas tout jeune pour dire ce qui est, mais bon, en même temps, ça veut rien dire vu la vitesse à laquelle évolue le matériel. Exact. Donc c'est un boîtier qui, pour moi, pour l'instant, est très correct, avec une très bonne montée en ISO et qui délivre des images qui me satisfont pleinement. Et dessus, j'ai un objectif, alors aussi assez ancien, puisque le début de la production date des années 90, je crois. J'ai un 300 mm f/4. Donc, qui n'est pas un super téléobjectif, c'est pas un satellite, hein, c'est pas un 600 f/4, ce n'est que la moitié d'un 600 f/4. Mais on va dire que je me considère encore comme photographe débutant et que quand j'ai commencé la photo, je me suis dit, bon, déjà, j'avais pas beaucoup de moyens pour investir dans un super téléobjectif. Et je me suis dit que autant s'offrir un bon petit téléobjectif de 300 mm qui fait déjà du bon boulot et qui était comme une invitation à développer mes techniques d'affût ou mes techniques d'approche pour faire en sorte que si ma focale est un peu courte, c'est à moi de faire le reste du boulot. Donc ça m'a donné la motivation de faire le reste du chemin, c'est-à-dire de soigner mes affûts, de soigner mes repérages, de soigner mes prospections. Et c'est un objectif que je vais bientôt faire évoluer, parce que ça va faire 2 ans que je l'ai. Maintenant, j'estime que dans ma pratique de photo, je commence à me sentir peut-être un petit peu limité sur certaines choses que j'aimerais faire. Donc voilà, je vais probablement faire évoluer mon objectif dans l'année, je pense. Au profit de quelque chose de plus lumineux et d'un petit peu plus gros. Mais voilà, si je peux faire passer un message, entre guillemets, il faut ne pas se ruer vers les très grandes focales dès le début. C'est la garantie de soigner les autres aspects qui vont permettre de se rapprocher du sujet ou d'être plus performant sur le terrain.
Que des paroles sages et qui sont vraiment très valables et que je rejoins parfaitement. Moi, j'ai photographié d'abord il y a très longtemps de ça avec 70-300 qui
ouais, j'ai commencé par ça aussi.
Très, très très vite limité. Là, on se rend compte. Mais c'est très intéressant de pouvoir, je trouve, progresser, pas de ressentir par certains avec des paliers finalement de ressentir la limite de ton matériel. Mmh. Pas parce que ton matériel dans l'absolu, il change pas. Donc, c'est toi qui va évoluer, qui va grandir. Et donc, tu te rends compte que ton matériel, il correspond plus à ce que tu veux.
C'est ça.
C'est intéressant de progresser comme ça, par palier. Mmh. Et donc, je suis passé comme toi au 300 f/4. Et on dit très souvent que le 300 f/4, c'est le couteau suisse de l'animalier. Parce qu'il permet de tout faire du vrai animalier. Même si un 300 mm, ça peut être effectivement des fois un peu juste, mais on peut quand même faire des magnifiques choses avec.
Ouais.
Et puis, on peut également faire pourquoi pas parfois du paysage, on peut essayer,
ouais.
Mais aussi la fameuse proxy dont tu parlais, la proxy photographie, qui permet de faire des magnifiques photographies, on va dire en mode rendu macro, quoi.
Mmh.
Donc le 300 mm est un super objectif qui permet de faire plein de choses. Donc 300 mm que tu vas faire évoluer. En
ouais.
termes, pour les paysages, tu as dit que tu en faisais un petit peu. T'as quoi comme, t'as un objectif particulier pour ça?
Ouais, j'ai un Canon 15-85 qui permet justement d'avoir un angle un petit peu plus grand et de pouvoir voir plus grand tout simplement dans le viseur. Je le fais vraiment, c'est vraiment dans des cas assez particuliers. Là, par exemple, on a les ambiances de l'automne en bord de rivière avec la brume le matin, avec des couleurs, avec des choses qui, des fois, quand je suis au 300 mm et que je peux isoler qu'une toute petite partie de la scène, je me sens un peu frustré et je me dis que la photo mérite d'être prise. Donc, pour certaines occasions, je me balade donc avec un deuxième boîtier, puisque mon objectif n'est pas compatible avec un boîtier plein format, avec un deuxième boîtier et avec un 15-85 pour capturer quelques ambiances. C'est quelques paysages. Ouais.
Tu parles de brume. Ce matin, j'ai emmené ma fille à l'école. Là, j'ai regretté pour le coup de ne pas avoir, même pas mon. J'avais pas d'appareil. Évidemment, pas mon hybride et malheureusement, pas mon iPhone. Moi, j'habite juste à côté de la Loire. Le début de la Loire, ouais. Elle est encore petite en fait. Et donc, c'est intéressant de la voir comme ça. Et là, les journées, les matins sont très frais et la température de l'eau est encore un peu plus chaude, tu vois, que l'air ambiant. Donc, il y a une espèce de grosse brume, bon, qui part assez rapidement, mais une très grosse brume. Et donc, il y avait cette brume-là. Le soleil se levait et tu voyais vraiment le soleil. Tu regardais le soleil avec les yeux sans t'éblouir, en fait. Mais tu voyais quand même ce rond blanc. Tu vois, même pas... Enfin, comment dire, juste lumineux, ce qu'il faut pour... pouvoir le voir.
Juste un halo. Temps,
juste un halo, quoi. Et même pas tellement un halo, vraiment le disque. On voyait le disque. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir... Il y a Club Astro à côté de chez moi et un soir, on est allé l'été dernier et il y avait un gars qui avait un super... super matériel et qui avait les fameux filtres solaires. Donc en gros, on regardait le soleil avec une lunette, quoi. Donc c'est incroyable. Et on voit effectivement ce filtre hyper puissant permet de juste voir le disque. Et ben en gros, j'ai retrouvé cet aspect-là à l'œil nu et je trouve que c'était assez magique de pouvoir enfin une fois voir le soleil à l'œil nu sans aucun matériel et de voir ce disque là c'était fabuleux. Et là, pour le coup, on dit souvent que l'appareil photo, le meilleur, c'est celui que tu as sur toi. Ça aurait été vrai et j'en avais pas du tout sur moi. Bon, et en même temps, tu vois, j'ai pu plus observer.
Donc oui, bon, des fois, c'était un mal pour un bien, quoi. Profite un peu plus avec les yeux,
c'est ça. Alors donc, Bastien, on l'a compris, tu es photographe de nature. Et il y a aussi, j'allais dire, mais il y a aussi, non, tu vois, j'ai fait attention, j'ai pas dit le mais, j'ai dit et, il y a aussi un autre aspect chez toi qui est celle de l'écrivain. Ouais. On va parler de ça pour plein de raisons. Pour toi d'abord, voir un petit peu ce que ça représente pour toi, mais aussi pour les photographes, parce qu'on est, on a fait le constat tous les deux, puisqu'on a quand même pas mal échangé avant de faire cette interview, on a fait le constat que la quasi-totalité, si ce n'est pas la totalité, des photographes, vraiment laissent leurs photos faire tout le travail de communication. En gros, je photographie, je publie, Instagram, ailleurs, on s'en fiche, finalement, c'est pas la question, mais je publie et je laisse faire le travail à la photo, quelque part, un peu à ma place. Mmh. En gros, en se disant, la photographie se suffit elle-même, tu vois, pas la peine d'en faire plus que la photo. Mmh. Bastien, qu'est-ce qui te pousse à écrire quand tu postes ?
Alors, on va se concentrer sur l'aspect écriture pour le poste dans un premier temps, parce que sinon je pourrais digresser pendant des heures. Ouais. Moi, ce qui me pousse à écrire sur mes posts, c'est parce que j'ai toujours le sentiment que la photo ne suffira jamais pour exprimer tout ce que moi j'ai ressenti au moment où je l'ai faite ou ce que j'ai ressenti au moment où je suis parti la faire. Pour moi, il y a un trop-plein, en fait. Il y a un trop-plein de choses que je ressens quand je vais faire les photos et quand je suis sur le terrain. Donc, je suis ce qui s'appelle un hypersensible. C'est pas juste pour faire joli, mais c'est, voilà, j'ai appris que il y a des choses qui m'affectaient et plus que d'autres individus. Donc, moi, quand je sors dans la nature, pour employer un terme un petit peu cru, j'en prends plein la tronche. Il m'arrive des trucs dans la tête, dans les yeux, qui me font littéralement déborder. Et aussi parfaite soit la prise de vue et aussi satisfaisante soit la photo, il manquera toujours un truc pour que je puisse raccrocher les gens et leur dire « Attendez, c'est pas tout. Vous avez pas tout vu, c'est pas tout devant vos yeux. Prenez le temps, prenez 2 minutes, prenez 3 minutes. » Que je vous explique ce qui se passe dans ma tête quand je vois un chevreuil ou quand je photographie un Apollon ou quand la brume se lève le matin. Voilà, l'essence même de mon travail de description sur mes posts Instagram, c'est en complément de la prise de vue. J'ai coutume de dire que mon stylo, c'est mon logiciel de post-traitement à moi.
Ok, tu écris en même temps, comment dire, je veux dire en même temps que tu photographies, tu vois l'idée quoi, tu es dans l'affût, tu peux écrire à ce moment-là ce que tu ressens ou c'est quelque chose qui va être a posteriori.
Ça m'est arrivé sur des très longs affûts d'avoir le temps d'écrire, mais généralement je préfère me concentrer sur chaque seconde que je passe en affût. Par contre, ce que j'écris pas, je le pense dans ma tête et dès que je rentre d'affût, il faut que je le couche sur papier pour pas oublier.
Ça a besoin.
Ouais. Et par contre, il m'arrive très très souvent, quand je pars faire une photo où je sais que je vais cibler telle ou telle espèce, généralement, je pars faire la photo et j'ai déjà le titre de cette photo dans la tête. Et le titre, on en reparlera, pour moi, c'est un aspect primordial d'un récit ou de toute forme d'écriture. Moi, je vais prendre un titre et ce titre, je vais en tirer un petit fil et je vais débobiner ce fil et je vais pouvoir en faire pas un roman mais un long texte en partant de 2, 3 ou 4 mots max. Ça va me donner ma trame et si je pars avec ça en tête, je reviens avec de quoi écrire, c'est certain.
Alors, est-ce que je peux te titiller un tout petit peu, parce que c'est vraiment une vraie question que j'ai.
Ouais.
J'ai fait quelques expositions et je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un peu comme tout le monde, en dessous de chacune de mes photographies, je mettais un titre. Voilà. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en mettant un titre, quelque part, tu vas orienter la lecture que la personne, que le spectateur aura de ta photographie.
Ouais.
Par exemple, mettons, tu vois, je sais pas, mais j'ai un lapin de Garenne. Puis je vais l'appeler oreille fendue, parce qu'effectivement il avait une oreille un peu abîmée. Automatiquement, la personne va lire ça, va orienter son attention sur l'oreille et peut-être pas sur autre chose qui aurait pu l'emmener, elle, avec son passé à elle, sa pensée, voilà, sa façon de voir le monde finalement, tu vois. Voilà, j'oriente son regard.
Je comprends.
En gros, la question est très simple. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Alors, moi, c'est pas que. J'ai fait le choix dans les titres de mes photos. Donc, les titres de mes photos que je poste sur Instagram, ça va être les mêmes titres qui vont se retrouver dans mes expositions. Moi, j'ai fait le choix d'écrire des titres qui, a priori, à première vue, n'ont absolument rien à voir avec la photo. Dans l'idée justement de se passer d'une certaine orientation et de ne pas orienter les gens, mais d'aller chercher un détail, d'aller chercher quelque chose dans la photo qui ne saute pas aux yeux au premier abord, ou simplement le fait d'avoir un titre qui correspond pas nécessairement à la photo, et ben juste attirer la curiosité en fait. Dire tiens mais
excellent.
Pourquoi faire ? J'ai une photo d'une silhouette avec une crête de montagne, avec un coucher de soleil derrière et avec juste une silhouette d'une biche qui se détache. La photo s'appelle Lasagne. Rien à voir avec le ski quoi. Enfin je veux dire, il faut quand même savoir comprendre. Et pour comprendre, là aussi ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des commentaires qui me disaient mais pourquoi Lasagne ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et il y en a quand même qui sont allés lire le texte qui est en dessous et qui ont dit ah oui d'accord. Et donc c'est comme je te disais, c'est un fil que je tire depuis le titre qui va me permettre de dérouler mon argumentaire entre guillemets ou tout simplement mon récit et pour le coup d'amener le lecteur et qui est aussi le spectateur qui à la base n'est venu que pour regarder une photo, de l'amener à une lecture d'image à laquelle il s'attendait pas du tout en fait.
C'est super intéressant et là franchement tu réponds vraiment à cette grande question que j'avais, c'est je mets un titre, ok, mais je ne veux pas orienter, donc je vais laisser la personne libre. Et en fait, toi, ta solution, elle est excellente, c'est de trouver quelque chose qui va attiser la curiosité sans orienter.
Ouais.
Je trouve ça assez génial. Je pense à la photographie d'Apollon sur ton compte.
Ouais.
Tu l'as appelé Flocon d'été.
Ouais.
Et je vois parfaitement le lien et en même temps, c'est suffisamment éloigné pour laisser la personne vraiment penser un petit peu ce qu'elle veut.
Ouais.
Donc top. Ça fait longtemps que tu écris. C'est plus ancien que la photographie.
Ouais, beaucoup plus ancien. Ouais. J'ai commencé à avoir une certaine attirance pour l'écriture. On va dire avec mon premier bon prof de français au collège.
Ça compte, ouais.
Ouais, ça compte énormément. C'était un type qui nous faisait mettre debout sur les bureaux, un peu à la Cercle des poètes disparus.
Ah, mais c'est ce que j'allais dire.
Ouais,
c'est pas possible, c'est le même, quoi.
Ouais, c'était vraiment ça. Et lui, il nous filait des exercices de très, très, d'expression écrite, mais vraiment très, très libre. Et c'était un lecteur passionné et il se régalait à voir le potentiel justement de ses élèves et il poussait vraiment à fond à bosser sur l'écriture. Et de là, ça m'a plus jamais vraiment quitté, quoi. Que ce soit pour des poèmes, que ce soit pour des récits, que ce soit pour... Et puis après, en fait, je me suis mis à écrire pour tout. Je me suis mis à écrire pour tout parce que j'avais soif de ça. Donc j'ai écrit pour quelques photographes, pour des articles de blog, pour des textes de présentation d'exposition, pour l'exposition d'un peintre aussi. Enfin voilà, j'ai essayé de toucher un petit peu à tous les domaines de l'écriture sans passer par le roman parce que je m'en sens totalement incapable. Mais ouais, c'est beaucoup plus ancien que la photographie. Ouais.
Alors, tu vois, moi qui étais un stit, je suis bien placé pour savoir que en cours de primaire, et je pense au collège, c'est pareil, parce que j'ai mes souvenirs de collégiens qui sont un peu lointains, mais quand même, j'ai quand même quelques souvenirs, on écrit quand même à l'école, tu vois, on écrit. Et pourtant, le rapport en tant qu'adulte à l'écrit reste très conflictuel, un peu comme toi et les maths, et aussi d'ailleurs moi aussi avec les maths, tu vois. Autant, tu vois, c'est quelque chose qui va être plutôt simple, il me semble, quand on est à l'école, il y a une rédaction, il y a un sujet, je schématise à outrance, mais racontez vos vacances, ok, très bien, je raconte mes vacances. Donc, à l'école, jusqu'à l'âge, je sais pas, de 15, 16, peut-être 20 ans, on écrit, ok. Une fois qu'on est adulte, on n'écrit plus, sauf pour remplir l'échec, tu vois. Bah, la question derrière ça, c'est toi, comment et c'est ce qui se retrouve d'ailleurs chez les photographes, finalement, qui n'osent plus écrire. On n'ose plus écrire quand on est grand.
Ouais.
Toi, tu continues à écrire.
Ouais.
Comment tu expliques qu'une fois qu'on est grand et qu'on est photographe et qu'on veut communiquer sur son travail de photographe sur Insta ou ailleurs, comment tu expliques qu'on n'ose plus écrire ?
Ben, moi déjà, je pense que, comme tu l'as très bien dit, on écrit pendant toute notre scolarité. Et en fait, quand on arrive à l'âge d'être adulte et d'avoir la possibilité d'écrire pour autre chose, ça va directement nous ramener à un aspect très scolaire de l'écriture. Donc l'aspect scolaire de l'écriture, il fait peur en lui-même parce que on a une langue compliquée, on le sait. Les règles de grammaire, les règles d'orthographe, c'est épouvantable, même pour moi qui écris tous les jours. Je replonge la tête dans un Becherel toutes les deux minutes. Je fais attention, j'essaie de corriger et tout. Mais quand on arrive à se passer de ce prisme de notre passé scolaire et quand on arrive à se rendre compte que outre les règles compliquées de grammaire, de conjugaison, on a une langue d'une richesse incroyable qui nous permet d'exprimer ce qu'on a dans la tête de 10 000 façons différentes. Je pense que c'est là qu'il faut qu'il y ait ce petit déclic, qu'il y ait ce déblocage, que les gens se disent, si j'ai envie de dire quelque chose, il ne faut pas que mon passé d'étudiant ou d'écolier soit un frein, il faut aller au-delà, il faut se dire que si j'ai des choses à raconter, si j'ai envie de le faire, il faut le faire. Peu importe les fautes, peu importe l'orthographe, il n'y aura pas Madame Goubert de 6e B derrière l'épaule en train de dire attention aux doubles voyelles, attention à ci, attention à ça. Il y aura juste le fait de reprendre du plaisir à écrire, en fait.
Ouais.
Et donc, c'est une grosse partie du boulot, déjà.
Alors, j'entends bien ce que tu dis, effectivement, on s'en fout de l'orthographe, tu as parfaitement raison, on s'en fout pour soi. Après, quand c'est public, c'est un peu comme se photographier avec un gros spot sur le nez.
Ouais.
On a l'impression que il est peut-être tout petit en vrai, mais on voit que ça. Et je pense que c'est un peu pareil pour certaines personnes de se dire, ce rapport à l'orthographe, mince, je veux pas que les gens pensent que je suis une grosse merde en orthographe, ce qui est peut-être le cas, et ils vont, par extension, penser que je suis quelqu'un qui ne vaut pas le coup, tu vois, ça peut être ça aussi. Il y a des outils qui existent, hein. J'en utilise un qui est vraiment génial, qui est gratuit, qui peut être payant si on veut aller plus loin, qui s'appelle, et je l'ai presque sous les yeux, tu vois, ça s'appelle Merci App. Je fais pas okay. Je fais de la pub, oui, mais sans faire de la pub, hein, mais
oui,
ça s'appelle
oui,
bah. Merci Plus Loin App. C'est une application qui se met en extension de navigateur et
d'accord.
qui permet en temps réel de corriger les fautes. C'est très bien fait, c'est pas infaillible, il y a des fois, ça laisse passer des trucs, mais ça permet, ça souligne en rouge, alors évidemment le fameux rouge de Madame Machin, ok, mais bon, voilà, peu importe. Ça souligne, tu cliques dessus, il te propose des solutions et la plupart du temps, ça match. Donc, pour ceux qui ont vraiment ce blocage lié à l'orthographe, et je le comprends parfaitement, parce que mon épouse a ce blocage-là, par exemple, donc je le comprends parfaitement. Il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas écrire parce que j'ai peur de faire des fautes et que les gens se disent, ouais, il lui fait des fautes, voilà. Non, vous pouvez le faire avec des outils qui sont vraiment très simples, particulièrement Merci App, et ce serait dommage de se bloquer juste à cause de ça, sachant qu'il y a des choses qui permettent de passer à côté. Ceci dit, il y a aussi des gens qui vont se dire, mais moi, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ces gens-là? On a tous quelque chose à dire, évidemment.
Alors, je commencerai par mettre les pieds dans le plat en disant non, c'est faux. On a forcément quelque chose à dire. Particulièrement pour des photographes, moi, un photographe qui me dirait non, mais moi, j'ai rien à dire, ben, je lui dirais, mais alors, avec ta photo, qu'est-ce que tu as voulu dire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur cette photo? Et là, on se rend compte qu'en passant par le... C'est toujours pareil, hein, c'est une méthode qui s'applique pour tout. En passant par le prisme d'une passion, on arrive à débloquer une situation. Donc, moi, un photographe qui vient me voir avec un portfolio, avec un book, peu importe, et qui me dit, moi, de toute façon, j'écris pas, je passe sur le « ça sert à rien, on y reviendra », mais j'ai rien à dire, bah, alors pourquoi tu fais des photos? Tu fais pas des photos juste pour figer un moment. Ou alors si, mais là tu viens de me dire quelque chose, tu fais des photos pour figer un moment, tu fais des photos pour ramener un souvenir, tu fais une photo pour garder un instantané d'un souvenir, d'une ambiance, d'un individu, d'un comportement. Et là, il m'a déjà sorti 3 ou 4 phrases, alors qu'il a rien à dire. Donc, ça va de soi. La photographie, c'est un art, c'est un outil de communication. Donc, photographier, c'est communiquer. Donc, photographier, c'est dire quelque chose. Si tu dis quelque chose, tu peux l'écrire.
Avant de parler de ce que tu fais toi en tant qu'écrivain pour aider les photographes, parce que voilà, on va parler de ça évidemment, ça fait partie de ta nouvelle activité, quel intérêt, quel bénéfice, j'ai même écrit au pluriel sur ma question, a un photographe à accompagner sa photo par un texte?
Alors,
qu'est-ce qu'il peut avoir à gagner, à y passer du temps finalement, parce que c'est aussi passer du temps à écrire, tu vois. Quel est le retour sur investissement temps à écrire ce texte?
Alors, déjà, on va parler au personnage, on va parler au bonhomme, on va parler à l'humain. Travailler l'écriture pour sa photo, ça peut être une source d'un grand plaisir personnel. Parce que on va parler de quelque chose qu'on connaît, on va parler de quelque chose qu'on a fait, et mine de rien, on va parler un petit peu de soi. Et parler de soi, ça c'est quelque chose qu'on arrive tous à faire. Quand tu fais des interviews comme on le fait là maintenant, et que tu demandes à un photographe de se présenter, on va dire que c'est un aspect relativement agréable de pouvoir parler de soi, de pouvoir se révéler un petit peu, de dire des choses de soi. Donc là, ça déjà, ça apporte quelque chose d'agréable. Après, ça va apporter, pour être un peu plus terre-à-terre, ça va apporter, par exemple, sur les réseaux sociaux, de la visibilité et de l'interaction. Si on fait un contenu de qualité, je prends l'exemple d'Instagram, parce que moi, je suis pas présent sur les autres réseaux sociaux, moi, je suis que sur Instagram. Si on prend l'exemple d'Instagram, ça va apporter des commentaires, ça va apporter des réactions, ça va apporter du débat, peut-être. Et ça, dans un monde virtuel qui est celui des réseaux sociaux et notamment celui d'Instagram, ça, je vais presque dire que ça, c'est palpable. Parce qu'avoir un retour, constructif, en quelques mots, on peut arriver à faire, à créer des réactions et à avoir un retour ultra gratifiant pour soi, sur son travail et donc sur sa photo. Donc ça va être pour l'aspect réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, interaction, communication, commentaires et donc, du coup, visibilité. Parce que Instagram, l'algorithme, il marche aussi comme ça. Il faut qu'il y ait du texte, mais il faut qu'il y ait des commentaires. Si ça interagit avec la communauté, alors ta publication va remonter un petit peu. Et donc, du coup, tu vas être un petit peu mieux considéré par l'algorithme. Je mets moult guillemets à mieux considéré par l'algorithme, puisque être considéré par un algorithme ne veut, à mon sens, rien dire. Mais au-delà de ça, pour les photographes qui ont ou qui veulent lancer un business photo, donc qui vont avoir une page de vente, qui vont avoir un site internet, qui vont envoyer des newsletters, qui vont faire des campagnes d'emailing, votre savoir-faire, tout votre ton et toute la personne que vous êtes et qui vous différencie du photographe d'à côté va passer par les quelques lignes que vous allez vous prendre la peine d'écrire. Votre offre, elle est unique parce que vous êtes unique. Vous ne faites pas la même photo que le voisin parce que vous n'êtes pas le voisin, tout simplement. Mais votre photo, elle ne suffit pas à dire ça. L'autre punchline que j'aime beaucoup utiliser, c'est non, vos photos ne parlent pas d'elles-mêmes, c'est faux. Aujourd'hui, on est noyé d'images, on est inondé par les images. On scrolle, on les voit passer, on s'arrête
plus,
pas.
Combien, je crois qu'on est sollicité par 3000 comme ça messages d'images en fait visuels dans une journée, c'est assez incroyable.
Ouais, si les photos ne parlent pas d'elles-mêmes, c'est à vous de parler pour elles. Si vous voulez, si quelqu'un qui a un business photo veut se démarquer, comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait ma photo, je l'ai publiée et je laisse faire et advienne que pourra. Eh ben, malheureusement, les trois quarts du temps, advienne que pourra. Moi, je vois des comptes Instagram de photographes formidables, incroyables, mais qui n'ont pas envie de mettre de hashtag, n'ont pas envie d'écrire, n'ont pas envie de faire de référencement ou ne vont pas vers ça. Peut-être qu'ils s'en foutent, mais malheureusement, c'est des gens qui ont un business photo et qui vont avoir une centaine d'abonnés avec des photos qui, moi, me laissent complètement sans voix, quoi. Et voilà, le bénéfice concret pour quelqu'un qui a un business photo, eh ben, on va en revenir au nerf de la guerre et à la commercialisation et tout simplement à l'argent, c'est que l'écriture au service de la photo peut permettre de mieux vendre.
C'est quoi le terme français pour copywriter?
Parce que c'est copywriter, concepteur, c'est concepteur-rédacteur.
Donc c'est ça. Alors c'est toi qui l'as inventé ou c'est
non,
comme
non,
ça
Non, ça
qu'on...
existe,
Non?
ça existe. C'est vraiment
Ok.
le terme reconnu en langue française pour copywriter, c'est concepteur-rédacteur.
Parce que c'est vrai que écrivain, tout de suite, on s'imagine Alexandre Dumas, Victor Hugo
Romancier,
et
ouais.
romancier. Donc,
Ouais.
alors que quelque part, c'est peut-être presque plus vrai. Tu écris, tu es écrivain, mais on s'imagine dans voilà le côté romancier de la chose qui n'est pas ton cas. Donc, concepteur-rédacteur. Alors justement, sur ta bio Insta, c'est écrit Bastien, concepteur-rédacteur. Ça consiste en quoi? Alors, concepteur-rédacteur pour photographe. C'est quoi exactement?
Alors, à la base, le terme donc anglo-saxon, c'est copywriter. Copywriter, c'est écrire de la copie. Et écrire de la copie, si on le traduit vraiment littéralement, c'est écrire de la pub, en fait. C'est un métier qui existe depuis très longtemps. À l'époque, on ne faisait pas de campagne d'emailing. À l'époque, on envoyait des pages de vente par la poste, dans une petite enveloppe avec un petit timbre. Et les gens...
C'était des pages de vente qui faisaient pas trois mots, hein. On est d'accord, c'était plusieurs milliers de mots,
C'était
hein.
ouais, non, c'était des bonnes grosses pages de vente et à la fin, des gens achetaient ou n'achetaient pas. Cette profession, elle s'est mise au goût du jour avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux et tout simplement du marketing digital et tout. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est la même technique qui va être appliquée pour utiliser une page de vente pour des stages photos, pour un shooting privé, pour ce que vous voulez. Et du coup, il y a des techniques. Donc, moi, j'ai du mal avec ça, mais beaucoup de copywriters ou de concepteurs-rédacteurs disent que c'est une science. Moi, j'ai du mal avec la science et j'ai du mal avec les maths, donc je serais tenté de dire que c'est plutôt un art d'arriver à choisir les bons mots pour déclencher quelque chose. Donc aujourd'hui, à l'ère d'Internet, ce qu'on va chercher à déclencher principalement, alors encore un mot anglais, ça va être un appel à l'action, donc un call to action. C'est ça qu'on va rechercher à engendrer. Moi, j'aime bien aller plus loin et parler vraiment à l'humain. Moi, ce que je veux créer et ce que je cherche à créer en écrivant pour des photographes ou en les aidant à écrire, c'est à provoquer des émotions. Et provoquer des émotions, ça c'est quelque chose qui parle à tout le monde et c'est un pouvoir, ça a un pouvoir de dingue parce que à partir du moment où on a généré des émotions, on a déjà attrapé la main de notre lecteur. On lui a pris la main et on l'emmène dans une direction. Alors, il n'y a rien de péjoratif, on ne force pas, ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation. On parle, on écrit et on essaye d'aller ouais, vraiment, c'est ça. C'est provoquer des émotions pour faire comprendre que le lecteur a tout à gagner, à écouter, à lire et à vous suivre, en fait.
Alors, donc moi, bien sûr que tu prêches un convaincu, hein, j'écris moi-même depuis longtemps, je me suis formé pour ça, donc tu prêches un convaincu, et je sais évidemment que le pouvoir des mots, il est très très fort, évidemment. Surtout en français, où on sait la richesse de la langue. Mais malgré ça, voilà, les photographes sont des photographes. Ils sont pas écrivains, ils sont pas concepteurs-rédacteurs. Comment fait un photographe qui a compris, et j'espère à travers tes paroles qui sont vraiment très, très sensées, très claires, j'espère que tous ceux qui nous écoutent auront compris l'intérêt, le sens et le bénéfice à écrire pour ces photos et avec ces photographies. Malgré ça, il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui n'ont pas très envie, il y en a qui parlent vraiment de très loin. Il y a par mille raisons qui font que voilà, les photographes vont pas vouloir le faire, mais qui veulent quand même en bénéficier. Toi, clairement, tu peux écrire à la place d'eux. Tu peux le
Oui.
faire, ça,
Ouais.
ouais.
Ouais, moi je le fais, je l'ai déjà fait. C'est un exercice qui, pour moi en plus, est très très satisfaisant parce que c'est un super challenge de se dire que on va partir d'une personne qu'on ne connaît pas, d'un travail qu'on ne connaît pas et qu'il va falloir se glisser dans la peau de cette personne-là. C'est un peu un travail d'acteur aussi, mine de rien, parce qu'on va vraiment aller rechercher la personne qu'on a en face de nous. Et moi, typiquement, ça m'est arrivé de le faire pour des descriptions d'autres photographes. Il me suffit de pas grand-chose, en fait. Il me suffit d'un appel téléphonique ou de peut-être même de voir la personne ou de faire une petite visio comme on est en train de faire pour arriver à cerner un petit peu la personne que j'ai en face de moi. Et je vais demander, selon pourquoi ça va être, donc un article de blog ou une description d'une photo, je vais demander trois ou quatre mots-clés dont je vais faire un titre. comme je disais tout à l'heure, et de ce titre, je vais tirer un fil, et ce fil va faire un texte. Et oui, ça, c'est un exercice que moi, j'aime beaucoup faire en plus, parce que c'est ultra gratifiant quand un photographe te renvoie un mail ou un message et te dit t'es arrivé à exprimer absolument tout ce que moi, je voulais exprimer et que je n'arrivais pas à faire sortir. Et voilà, j'ai eu le cas d'une amie photographe qui m'a commandé un texte pour la présentation de son exposition. Je lui ai fait le texte et elle m'a renvoyé un texte qu'elle avait fait, dont je n'étais absolument pas au courant. Et on a retrouvé dedans, je ne sais plus combien de mots, absolument identiques en fait. Et on ne s'était pas concerté du tout. Et c'est quand tu arrives à ça, autant pour elle que pour moi, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Ouais.
C'est super. Et c'est vrai que je suis sûr, c'est ça qui est top, c'est qu'il y a plein d'auditeurs qui là se rendent compte de ce métier que tu fais, et tu te fais payer pour ça, c'est une activité professionnelle. Mm-hmm. Donc c'est simple, moi je suis photographe et je veux aller plus loin dans ma démarche de communication, mm-hmm. par l'écrit, parce que, ouais. parce qu'on comprend que c'est intéressant, qu'il y a de l'intérêt à le faire. Je t'envoie un message privé et mmh. on discute et puis mmh. on voit comment on peut s'arranger. C'est aussi simple que ça finalement. Hein.
C'est ça, tout à fait.
Ok, parfait. On arrive à l'heure d'interview.
Okay.
Écoute, c'était hyper intéressant. Je savais que ça le serait, ça l'était beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Par ton parcours de photographe qu'on connaît maintenant très riche, mais aussi par ce métier que tu as de concepteur-rédacteur que tu nous as fait découvrir. Et surtout, la richesse, voilà, les photographies ne se suffisent pas à elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, tu l'as bien, bien mieux dit que moi tout à l'heure. Mais merci infiniment, Bastien, d'avoir pris ton temps pour nous partager tout ça.
Bah, merci Régis, c'était au plaisir. J'espère que ça donnera envie de passer derrière le clavier ou derrière le stylo à certains photographes.
J'espère aussi. À très bientôt.
À bientôt.
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.